Voilà, nous accueillons Yves Jardin, donc de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour Yves.
Bonjour. Shalom, salam, autrement dit paix.
Paix, c'est le maître mot.
Ça devrait être.
Ça devrait être.
C'est ce qu'on veut tous, voilà. Enfin beaucoup, pas forcément tous. Mais...
C'est sûr, pas des deux côtés, c'est sûr.
Des deux côtés, il y a des gens qui veulent la paix.
Oui.
Des deux côtés. Bon, et il y a, si on parle des récentes négociations entre le Hamas et Israël, ils n'ont pas tous la même volonté de s'entendre et de faire, au moins d'arriver à un cessez-le-feu. Je ne parle pas d'une paix complète, mais le cessez-le-feu, c'est déjà un pas vers une paix entre Israéliens et Palestiniens, mais on n'y est pas encore. Bon, et il faudra sans doute pas mal de temps avant qu'on réussisse à progresser dans cette direction. On peut dire un mot des négociations rapidement. Avant, oui. Je dirais que la situation est très grave, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Jérusalem-Est qui fait partie de la Cisjordanie. À Gaza, il y a un génocide qui continue. Les bombardements n'ont pas cessé. Il y a eu une petite interruption il y a quelques mois pour libérer des otages, tant mieux. Mais les bombardements n'ont pas cessé. Et si on prend ce qui se passe pour les négociations, le Hamas a accepté les conditions qui étaient proposées par Biden, président des États-Unis, donc avec un plan en trois étapes, dont la première étape aurait été un cessez-le-feu de 60 jours, avec retrait de l'armée israélienne vers les zones les moins peuplées, libération des otages et en échange, libération d'un certain nombre de prisonniers palestiniens. Bon, là-dessus, Netanyahou a dit « Moi, je veux pouvoir, quand les otages auront été libérés, je vais pouvoir continuer à bombarder et éliminer définitivement le Hamas. » Il a demandé à contrôler le passage vers l'Égypte, le couloir précis, et il a demandé à occuper également une route qui coupe en deux la bande de Gaza et... c'est le maintien des Israéliens, alors que le plan Biden, il prévoyait une deuxième étape où le cessez-le-feu aurait véritablement été prolongé pour de bon et où les Israéliens auraient évacué la bande de Gaza. Et une troisième étape sur plusieurs années, mais on en est loin, avec la reconstruction de la bande de Gaza sous la direction, avec l'aide des Américains. Et on en est très loin. Donc, là, actuellement, à Gaza, il y a une vaccination en cours avec quelques jours de trêve dans différents endroits de la bande de Gaza. On ne peut que s'en réjouir. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que le gouvernement israélien veut arrêter ces bombardements. C'est pour les... habitants de la bande de Gaza, c'est un répit temporaire. Tant mieux, ils en ont bien besoin, mais ça ne résout pas le problème et ça ne met pas fin à l'intervention israélienne dans la bande de Gaza. Moi, je refuse de parler de guerre entre Israël et le Hamas parce qu'on a deux forces qui sont tellement inégales qu'on ne peut pas parler véritablement d'un conflit comme le conflit russo-ukrainien, par exemple. Les Palestiniens, même s'ils ont quelques armes, ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas de chars d'assaut. C'est pas comparable. Et puis ensuite, il y a un occupant et un occupé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas deux États ou deux structures à égalité. Et ce qui se passe à Gaza, c'est aussi... une guerre de vengeance, une répression coloniale. C'est-à-dire qu'on a eu un peu moins de 1200 personnes qui ont été tuées à Gaza. On a diminué un peu les chiffres maintenant, d'après les recherches qui ont été faites. Et le Hamas n'était pas seul. Il y a plusieurs groupes palestiniens qui étaient dans le coup et qui ont commis des actes absolument inadmissibles. Nous, on considère qu'il y a un crime de guerre et crime contre l'humanité et que dont les auteurs sont passibles de jugement sur le plan international. Et c'est une guerre de vengeance, un génocide, hein, élimination au moins d'une partie de la population, qui rappelle des répressions coloniales en Algérie en mai 45, manifestation à Sétif des Algériens en mémoire des leurs qui étaient tombés à la guerre, coup de feu tiré au moment de la manifestation par un commissaire de police. La population locale, les Algériens, refluent vers les villages, attaquent les fermes de colons. Il y a une centaine de morts. Et après, il y a une répression qui est faite par l'armée française, par les colons français, qui fait, on ne connaît pas le nombre exact de victimes, qui fait 15 000 morts, 30 000 morts, certains vont jusqu'à 60 000. On ne saura jamais, très difficilement en tout cas, le nombre exact de victimes, mais c'est du même type. C'est-à-dire que vous, les colonisés, vous osez massacrer une partie des nôtres, eh bien, vous allez payer ça de façon absolument impitoyable, de façon à ne pas recommencer.
Avec des mesures qui ne sont pas comparables, quoi,
oui.
Comme on disait.
Et
alors, comment s'organise l'aide
alors,
avec
l'aide,
l'association,
l'aide, c'est assez...
d'un point de vue local et national.
Oui, alors l'aide, c'est quand même assez difficile, parce qu'il faut savoir qu'il est très difficile actuellement d'apporter une aide aux Gazaouis. Il y avait régulièrement, quotidiennement, avant le 7 octobre, des camions qui apportaient régulièrement une aide humanitaire, essentiellement en nourriture, mais pas seulement, et que depuis, cette aide a énormément diminué, que les Israéliens, voilà, le gouvernement et l'armée israélienne s'opposent à l'entrée de véhicules et de convois humanitaires. Là, on est tombé depuis avril à quelque chose comme 60 camions par jour, ce qui est totalement insuffisant. Et actuellement, il y a une famine à Gaza. Il y a des gens qui meurent, notamment des enfants, qui meurent de faim. C'est difficile d'avoir le nombre exact depuis que ça a commencé. Les gens ont commencé à mourir de faim. Mais il y a des gens qui meurent de faim à Gaza maintenant, tous les jours. Et plus de 95% de la population de Gaza est en état de carence alimentaire aiguë. Hein ? Alors, il y a les bombardements, il y a ceux qui meurent de fait de ne pas pouvoir se nourrir un tant soit peu, et puis il y a les maladies, et notamment... Là, actuellement, vous avez une vaccination contre la poliomyélite. On sait qu'il y a des cas de poliomyélite à Gaza, mais il y a aussi des cas d'hépatite A, des diarrhées. Enfin, il y a un tas de maladies qui sont dues aux conditions de vie extrêmement précaires. Les gens vivent sous des tentes, n'ont rien à manger, n'ont pas de médicaments. Les hôpitaux ont été détruits. Les quelques-uns qui fonctionnent encore tant bien que mal, il n'y a pas de produits pour soigner les gens, il n'y a pas d'anesthésiant en cas d'opération. Il y a eu par exemple le cas de césarienne ou d'opérations qui sont faites sans anesthésie, c'est terrible. Et on assiste à ça, et les gouvernements, la plupart des gouvernements ne font rien. Et quand ils ne disent pas qu'Israël a le droit de se défendre, comme ça a été dit par Kamala Harris, candidate aux élections présidentielles américaines, ou dit par Emmanuel Macron quand le président d'Israël est venu en France à l'occasion des Jeux Olympiques.
D'un point de vue concret, comment les gens peuvent participer et aider le mouvement et la lutte via
l'AFPS ? C'est surtout l'aide alimentaire. Il y a quand même pas mal d'associations, ne serait-ce que le Secours Populaire, par exemple, qui recueille des dons pour des aides médicales et alimentaires, le peu qui peut rentrer. Ça continue, hein, cette aide-là, et tous les gens peuvent faire des versements. Alors, il y a ça, et puis sur le plan politique, bah, c'est de protester contre ce qui se passe et d'agir pour un changement de politique de nos gouvernements, pour l'action des organisations internationales. Et de ce côté-là, il y a quand même des progrès qui sont faits, même si sur le terrain, on n'en voit pas la traduction directe, mais il y a quand même des choses qui avancent. Il y a eu un avis de la Cour internationale de justice le 19 juillet. Alors là, ça ne concerne pas seulement la bande de Gaza, ça concerne aussi la Cisjordanie, Jérusalem-Est, disant que l'occupation israélienne est illégale, doit cesser le plus vite possible, et appelant les gouvernements à ne pas soutenir cette occupation. Donc, la Cour internationale de justice, elle n'a pas d'armée à sa disposition, mais c'est au gouvernement d'appliquer cet avis de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice a également appelé par une sentence en janvier, à la suite d'un recours de l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, ils ont eu l'apartheid et le colonialisme. Ils savent ce que c'est. Mais il y a eu donc à la suite de recours un avis disant que Israël doit tout faire pour éviter un génocide à Gaza ou même maintenant en Cisjordanie. C'est pareil. Si Israël ne veut pas, il faut que les États et les gouvernements, dont le nôtre, fassent pression sur Israël pour qu'il respecte ses avis et qu'il respecte le droit international. La Cour pénale internationale qui intervient... Alors, la Cour internationale de justice intervient en ce qui concerne les États. La Cour pénale internationale intervient sur les personnes et a demandé des mandats d'arrêt internationaux contre Netanyahou, contre Gallant, qui est le ministre de la Défense israélien, et contre 3 dirigeants du Hamas. Sauf que sur les 3 dirigeants, il y en a 2 qui ont été tués par les Israéliens avant d'avoir pu être arrêtés. Et c'est aussi aux États de faire le nécessaire pour que, si les mandats d'arrêt sont prononcés, sont décidés, et que des personnes viennent en Europe ou en France, il y a un principe de justice universelle qui doit mener les autorités locales à arrêter ces personnes. Et je crois que ça, c'est quand même assez... les dirigeants israéliens, ils sont quand même pas totalement indifférents ni totalement tranquilles sur ce terrain-là.
On espère que ça va vite évoluer, hein, notamment sur l'arrêt des combats, des conflits.
Oui.
Et dans le court terme, en tout cas, c'est ce qui est en cours à court terme. Non, merci Yves pour ces propos.
Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a 2 choses que je voulais dire très brièvement. Il n'y a pas seulement la bande de Gaza. Il y a aussi la Cisjordanie qui vit une situation absolument terrible, parce que depuis la formation du gouvernement israélien avec des ministres d'extrême droite, sinon même certains ont été qualifiés de néo-nazis par un historien israélien contemporain, c'est vraiment l'horreur, avec des attaques quotidiennes sur les camps de réfugiés, sur les villages, notamment les villages de Bédouins. Il y a des villages dont la population a déjà été chassée. Il y a des morts. On est arrivé en Cisjordanie aujourd'hui à plus de 670 morts depuis le 7 octobre. Il y a eu des opérations récentes à Jenin ou à Toulkarem. Il y a eu 37 morts en l'espace d'un peu plus d'une semaine. Et ça, on en parle très peu. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que nous, on appelle au boycott des produits israéliens. Bon. Et c'est une arme qui a été utilisée notamment pour abattre l'apartheid en Afrique du Sud. Cette arme a des résultats. Il y a des sociétés, notamment françaises, qui se désengagent d'Israël. Il y a eu dans Les Échos, c'est pas un journal forcément pro-palestinien ni très progressiste, mais qui dit que Israël, enfin, ils ont titré en disant Israël sous la menace croissante des boycotts et des désinvestissements, et l'économie israélienne ne se porte pas bien. Et le fait qu'un journal comme Les Échos tire la sonnette d'alarme, c'est pas innocent. Et pour nous, c'est un pas dans la bonne direction, peut-être pas pour les milieux d'affaires ou les grandes sociétés, mais pour la population palestinienne, à terme, c'est un progrès important. Voilà ce que je voulais dire.
D'accord. Ben, merci. Donc, on retient ce boycott de produits israéliens, qui est une lutte que chacun peut éventuellement mener. Merci Yves pour ce témoignage, oui. Et puis bonne continuation dans la lutte.
Je suis pas optimiste.
Non. Ok. Au revoir. Merci.